Comment ça? Une histoire bizarre. Elle était fiancée au frère de Didier, Marc, mais comme il était très malade, ils n'ont pas pu se marier. Didier et elle sont tombés amoureux l'un de l'autre. Voilà. Guillaume lui demande, et pourquoi est-ce qu'il ne se marie pas? Parce qu'elle a peur, c'est de faire de la peine au frère de Didio. Guillaume lui dit, Marc, c'est le président? Je ne sais pas, peut-être. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'invitation? Guillaume lui dit, tu me demandes mon avis et tu as déjà dit oui. Galien lui dit, je peux me décommander? Non, vas-y. Cela ne te gêne pas? Non, c'est d'histoire ancienne. Mais ne te laisse pas avoir. Restons tranquillement entre nous. Je le promets, je lui dis au revoir et c'est tout. Guillaume lui dit, ce sera déjà pas mal. Et le lendemain soir, il va sonner au portail de Flore. C'est vous? Oui. Entrez. Il entend le déclic du portail et entre. Traverse la cour. Contourne la première maison, monte le perron pour aller à la porte. Il sonne. Elle ouvre. C'est Flore en robe blanche, toute belle, toute pimpante. Elle lui dit, j'ai déjà plus de domestique, entrez. Il entre. Lui donne un bouquet de roses rouges. Merci, mais c'est trop surtout à notre époque. Allez, venons au salon. Il la suit. Elle a la démarche aérienne. Entrez. Il entre. Asseyez-vous. Elle le fait asseoir sur un fauteuil. Elle lui demande, vous voulez boire quelque chose? Elle lui dit, oui, un jus de tomate. Elle lui dit, vous avez raison, et ce sera la boisson que nous prendrons lorsque nous reverrons. Elle va dans un coin du bar pour prendre la boisson. Elle prend deux verres, la boisson, quelques fruits, elle met le tout sur un plateau et elle revient vers Galien. Elle dépose le tout sur la table basse. S'assoit en face de Galien. Elle lui dit, servez-vous. Elle se sert aussi. Une fois qu'ils aient bu une gorgée, il lui dit, alors vous partez? Elle lui répond, oui, puis de toute façon je le ferai, je serai mieux à Lyon, parce que Paris est devenu un vrai champ de bataille. Je ne peux rien faire ici. Il lui dit, Donc vous n'êtes pas triste de partir? Vous ne regrettez rien? Elle lui dit. Non, je pars avec des souvenirs. Mais pour ce qui est du reste, et puis vous êtes de Lyon vous aussi, et l'on risque de se revoir là-bas. Votre mère aussi, je la verrai. En fait, je serai plus près de vous là-bas qu'ici. Il lui dit, je vous remercie, moi aussi je penserai à vous. Et quelquefois, chaque fois que j'irai à Lyon, je viendrai vous voir. Ce qui fait que presque toutes les personnes que j'aime sont à Lyon. Elle lui demande, vous aimez beaucoup de personnes? Il lui dit, non, mais je reste fidèle. Je suis un peu comme Verlaine, qui disait que chez lui, un amour ne chassait pas un autre, mais qu'il était rajouté aux autres, et que chaque matin, en s'éveillant, il revoyait défiler tous ses amours. Il était incapable d'en préférer un. Elle lui demande, « Et vous ?» Il sourit et lui dit, « Malheureusement, j'en préfère un, mais parce que je ne suis pas un poète. » Elle lui dit, « Et quelle est la personne que vous aimez le plus ?» Il lui dit, « Je ne vous le dirai pas. » Elle lui dit, lorsqu'on dit ça, ça veut dire que ce n'est pas la personne à qui vous le dites que vous préférez. Il lui dit, non, pas chez moi, mais je ne le dirai jamais, par timidité et parce que je ne veux pas que la personne que j'aime le plus se sente, veuille être plus aimée, devienne égoïste et veuille prendre toute la part du gâteau. Qui vous dit que je suis comme ça? Et du sourire lui dit, vous l'êtes peut-être pas, mais je ne veux pas en prendre le risque. Et du sourire lui dit, tant pis, je ne le saurai jamais. Bon, allons manger. Cela ne nous empêchera pas de marivauder. Elle termine son verre, lui aussi. Elle se lève et lui dit, venez. Il se lève et la suit. Elle le mène à la salle à manger. Les plats sont chauds, sont sur un chariot. Les assiettes sont sur la table. Asseyez-vous. Il s'assoit. Elle s'assoit en face de lui. Elle lui dit, c'est pas un repas de fête, comme vous pouvez le comprendre, vu les événements. Alors, je vous ai préparé un velouté de cresson, du lapin à l'armagnac, des pommes de terre sautées avec des légumes, du fromage et une île flottante, comme vin du Bourgogne. Cela vous va? Il lui dit, c'est parfait, et même trop, merci. Et elle sert le cresson. Une fois qu'ils en est prêts, elle lui dit, le cresson m'a été envoyé par M. Giacomo, qui à une de ses anciennes ancêtres lui a donné en héritage une cressonnière. Une fois qu'ils en ont pris, elle lui demande, ça vous plaît? Oui, très bien. Elle lui dit, eh oui, je retourne à Lyon. Je vais retrouver la maison, le grand parc, l'oncle, la horloge et tout. J'ai l'impression c'est que je vais m'isoler du monde. Je suis heureuse et en même temps triste. Je ne sais pas, quelque chose me dit que je vais fondre dans le décor, comme dans ce petit film qu'a fait Jean-Pierre Jugnet, Le Jardin. Vous avez vu? Oui, je crois, c'est l'histoire d'un homme qui est tellement heureux dans un jardin qui s'enfonce, disparaît, devient jardin. Et lui dit, oui, c'est ça, c'est ce qui risque de m'arriver. Elle change les assiettes. sert le lapin. Je ne sais pas s'il est bien cuit, il lui dit. Oui, il est très bon. La chose est exquise. Elle lui dit. J'ai terminé ma vie vieille fille, dans le jardin, toute seule, en dehors du monde. Elle lui dit. Sûrement qu'un jour, vous pourrez vous marier avec Didier. Elle lui dit. Il faudrait que je retrouve Marc, le lui demander. Galien lui demande. Mais Marc, n'est-ce pas le président ? Elle lui dit. C'est peut-être lui, mais comment le savoir ? Il est devenu un mauvais garçon. Il a changé constamment de nom, de vie. Mais à chaque fois, je crois qu'il a gardé son prénom. Galien lui dit. Alors, s'il est comme ça, vous ne devez pas avoir des comptes à lui rendre. Elle lui dit. Mais c'est pas à cause de lui, c'est à cause de Didier. Parce que lui, il risque d'en avoir du remords. Elle change les assiettes pour le plat de légumes. Il lui demande, vous allez faire des occupations à Lyon? Elle lui dit, je ne sais pas faire grand-chose, à part le piano. Eh bien, jouez-en. Oui, toute seule dans la maison. Il sourit, lui dit, votre maison semble être une maison à la Marguerite Duras. Elle lui dit, sûrement pas, c'est plutôt à la Virginia Woolf. Il lui dit, la maison de la promenade au phare. Elle lui dit, pas tout à fait ça. Elle change les assiettes. Et présente le plateau de fromage. Une fois qu'ils se sont servis, elle lui dit « Non, une maison à la Jean-Pierre Junier, une maison encerclée, isolée, comme un bateau sur la mer, isolée et confortable, hors du monde. » Elle soupire. Il lui demande « Et Didier dans tout ça ?» Elle enlève les assiettes pour mettre l'île flottante. Je crois que le caramel est réussi. Vous me le direz. Didier, eh bien Didier, lui, il est dans ses fleurs. Il aurait aimé être botaniste. Et moi, je suis une de ses fleurs. Il lui dit. Vous semblez en être attristé. Elle lui dit. J'aurais aimé c'est qu'il soit un peu plus actif. Et en même temps, j'aurais eu peur qu'il s'éloigne de la maison et de moi en même temps. Elle lui dit, allons prendre le café au salon. Cela vous a plu? Excellent, merci. C'est pas pour me faire plaisir que vous le dites. Non, pas du tout. Elle se lève, et lui aussi. Elle saute pour aller au salon. Et il s'assoit comme la dernière fois. Je vais chercher le café. Elle va chercher le café à la cuisine. Et elle revient avec un plateau. Et s'assoit en face de lui. lait, sucre. Un peu de lait, merci. Il lui demande, vous ne regretterez rien ? Elle lui répond, non, peut-être cette maison qui semble d'un autre âge et isolée du bruit de la ville tout en y étant. Je regretterais aussi notre amitié et qu'elle n'ait pas abouti à quelque chose de plus fort. Mais c'était de ma faute. Il lui dit, si vous voulez, nous pourrions continuer à nous voir. Elle lui dit, oui, nous nous reverrons, mais nous n'aurons pas des rapports vraiment intimes. Il y aura toute la famille. Nous ne serons jamais vraiment seuls. Il lui dit, parce que vous aimez Didier, et c'est pour le mieux. Elle lui dit, oui. Il se lève et lui dit, il se fait tard, je dois vous quitter. Et demain, vous devez peut-être vous lever tôt. Elle se lève et lui dit, je vous raccompagne. Elle le ramène vers la sortie. Sorte du salon. Et de la maison. En sortant de la maison, elle le mène jusqu'au portail. Elle lui prend la main. La nuit est douce. Avant de lui ouvrir le portail, elle lui dit au revoir. Au revoir. Et elle lui dit, je m'étais imaginé, c'est que nous allions finir la soirée autrement. Elle baisse les yeux. Il comprend. Si vous voulez, elle lui répond, non, c'est trop tard. Alors, il la prend dans ses bras et l'embrasse sur les lèvres. Après ce baiser, elle lui dit « Merci ». Et elle ouvre le portail. Il sort. Il entend le portail se refermer derrière lui. Il entre chez lui, à pied, son cerveau troublé par cette soirée. Galien est dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Il est accompagné du biologiste Jean Riquin et de Monsieur Danfort. Le ministre leur dit,
je vous ai convoqué, c'est pour savoir où vous en êtes avec les expériences sur le surhomme. Les Américains, toujours eux, sont déjà bien avancés. Et vous ?
Galien lui dit, c'est délicat de s'occuper de telles choses et demande réflexion. Quels sont les êtres humains que l'on peut qualifier de surhommes, si on peut appeler ça des surhommes, et pourquoi y aurait-il qu'eux qui auraient le droit à la vie ?
Le ministre lui dit, vous êtes scientifique, votre rôle est de faire des recherches pour ce qui est de la morale. De ce qui doit ou ne doit pas se faire, ce n'est pas à vous à en discuter.
Je vois pas ce qu'il y a d'immoral à vouloir un peuple où il n'y aurait que des gens intelligents, au lieu que, comme maintenant, la majorité des gens sont très bas. Galien lui dit, il faut de tout pour faire un pays, de l'élite et aussi des gens de la base. Le ministre lui dit, la base peut être remplacée par des machines, des chimères ou des mutants. Galien lui dit, des monstres? Non, des êtres qui seraient, d'après leur physique, capables de faire certains travaux. Galien lui demande, pourquoi ne pas laisser les hommes comme ça, puisque tout naturellement, il y en a qui sont pour le travail manuel. Le ministre lui dit, oui, mais avec eux, on pourrait les traiter comme des machines, et ils seraient plus forts que les humains. Galien lui dit, vous voulez une race d'esclaves? Oui. Au mieux, des mutants et des chimères comme esclaves que nos propres frères. Le ministre regarde Glanfort qui lui dit, monsieur le ministre, malgré les questions morales que pose ce problème, nous avons fait quelques recherches et monsieur Jérôme Riquin va vous en parler. Je vous écoute, monsieur Riquin. Voilà, monsieur le ministre. D'abord, il faut vous dire que 10% de la population dispose d'un génétique amélioré par le gène synthétique et dirige la société, direction, artistes, etc. S'ils se reproduisent entre eux, ils formeront une nouvelle race d'hommes. Quant aux autres, qui sont déjà des sous-hommes, nous pourrons les standardiser ou les transformer grâce à l'ADN en chimères, ou recréer des chimères qui recréeront des chimères, je veux dire, indéfiniment. Si la population de sous-hommes ne suffit pas, nous pourrons en créer de nouvelles familles grâce aux synthétiques. Le ministre lui dit, très bien, et où sont vos expériences? Nous ne sommes pas encore prêts, mais comme la loi nous interdit de refaire un homme en entier, nous avons fait des expériences avec des corps sans tête. Comme ça, là, nous sommes pas hors la loi. Le ministre lui dit, nous allons changer la loi. Et vous pouvez faire des expériences sur des êtres humains en entier, en permettant de faire des transformations avec l'ADN et des greffes. Sirekin lui dit, merci, monsieur le ministre, surtout que nous réussissons bien à greffer des parties du corps avec de l'animal. Le ministre lui dit, très bien, continuez. Vous faites des expériences sur qui? Zurichin lui dit, il y a beaucoup de donneurs, vous savez, et beaucoup de décès. Le ministre lui demande, qu'est-ce qui vous manque, à part la liberté pour le faire, de l'argent, pour lancer à plus grande échelle, pour créer des usines de chimères? Je vous donnerai une subvention spéciale, aide à la recherche. Et pour le surhomme, nous sélectionnons grâce à la médecine scolaire, au travail, à l'hôpital, etc. Les hommes qui sont déjà supérieurs, nous les incitons à procréer. Et en plus, nous leur prenons le sperme pour les mettre à des mères porteuses. Le ministre dit, très bien, je vois que tout est en marche. La population peut se transformer rapidement. Je vous félicite, monsieur Diap. Vous avez bien travaillé. Galien est furieux. Gédenfer lui serre le bras et dit, monsieur Diap est très modeste. Le ministre se lève et leur dit, eh bien voilà, nous avons fait le tour de la question. Au revoir, messieurs. Ils sortent du bureau. Galien est furieux. Il dit à l'enfant, il nous prend pour qui? Et qu'est-ce que c'est cette histoire de surhomme? L'enfant lui dit, si nous ne l'aidons pas, d'autres vont l'aider. Et que feront nos laboratoires? Galia lui dit, de la recherche sur le cancer, le sida. L'enfant lui dit, ça ne rapporte rien. Le vaccin contre le sida est déjà prêt, depuis longtemps. Mais personne ne veut mettre de l'argent là-dessus.
Pour vacciner l'Afrique, ils n'ont pas d'argent.
Et ils sont déjà surpeuplés. Pour ce qui est du cancer, il y a tellement d'établissements qui le soignent que si nous arrivons à le soigner, qu'est-ce qu'on en ferait? Et cela mettrait des milliers de personnes au chômage. Personne ne le souhaite, surtout pas les propriétaires de cet établissement et leurs fournisseurs. Quand on a des laboratoires, il faut travailler sur des choses qui rapportent. Pour le moment, c'est la biotech.
La transgénétique, Galien lui dit.
Et si un jour le monde est en guerre bactériologique, l'enfant lui dit.
Elle l'est déjà.
Et ce sont ces laboratoires militaires qui s'en occupent, mais qui, pour des raisons budgétaires, se sont mises dans le privé. Voyez-vous, notre rôle dans la société, c'est faire ses recherches. Rien d'autre. La société nous demande que ça. C'est pas à nous occuper de morale. Pour cela, il y a d'autres personnes qui sont faites pour ça. Galien lui dit, la morale, ça sert à rien alors. L'enfant lui répond, la morale, ce sont pour ceux qui donnent l'ordre de faire ou de ne pas faire. Mais il y a deux modes. La morale d'État et la morale privée. Quelquefois, elles se contredisent. Et gouverner, c'est rendre cette contradiction acceptable en invoquant la raison d'État et maintenant, en plus, économique.
Galien lui dit, tout en reprenant sa marche, c'est monstrueux. L'enfant lui répond,
non, c'est la seule façon de gouverner un pays, et ça marche.
Galien lui dit, vous trouvez, avec toute cette misère?
On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Et puis la loi va changer. Grâce à nous, les ouvriers vont être remplacés par des machines.
Ils vont devenir chômeurs.
Les machines et les chômeurs vont disparaître pour être remplacés par des chimères. Plus de chômeurs, de SDF. Une chimère fera ce que l'on veut, le temps que l'on veut. Tout est déjà prévu avant sa naissance dans son ADN. Elle vivra le temps que l'on voudra et fera ce que nous voudrons, ce que nous avons prévu pour elle. Nous le faisons déjà pour les animaux domestiques.
Ne faites pas cette tête, ce ne sont pas des humains, ce sont des chimères.
Galien lui dit,
oui, mais qui seront vivants?
L'enfant lui dit,
comme les vaches, les chevaux, les poules, les chiens, les chats, qui ont été transformés à notre convenance depuis des siècles pour faire des jouets vivants ou des machines à viande ou autre.
Et ils entrent dans la voiture pour les mener au siège.
Dans les écoles, la sélection va bon train. Les enfants bons sont sélectionnés dans les classes et menés dans des établissements pour eux. Ces établissements sont gratuits. L'enfant est obligatoirement pensionnaire pour éviter qu'il ait de mauvaises fréquentations et mauvaise santé mentale et physique. Et pour qu'il soit bien suivi. Une fois par semaine, visite médicale. Test tous les 3 mois. Les garçons et les filles séparés pour ne pas ralentir la croissance de l'autre sexe. La fille croise plus vite que le garçon pour certaines choses et vice-versa. La nourriture est sélectionnée. On leur donne des produits maison. Il y a des fermes spécialisées pour ça. Les études, les cours sont étudiés pour des enfants qu'ils apprennent vite pour éviter qu'ils perdent leur temps. Pour ce qui est des autres, les violents, ils sont surveillés et traités. On les rend stériles, ce qui semble les calmer. Les hommes sont menés à la baguette, et si un enfant ne peut vraiment pas suivre, on le renvoie chez lui. Dans les écoles, on prépare les citoyens de demain. Les futurs Pontois, Dieppe, se fabriquent au banc de l'école. Il y a près de 10 000 enfants sélectionnés. En attendant qu'ils soient formés, l'on forme des marins pour naviguer, devenir des hommes de service. Car lorsqu'on est sur un bateau, on apprend à vivre ensemble, à être sociable. Donc, les marins, les officiers devront apprendre à diriger les navires les plus grands du monde, fabrication et propriété jeune tout, avec une machinerie ultra moderne, des commandes entièrement informatisées, avec une chaudière atomique. Elle sera guidée au laser. Le moindre obstacle fera dévier le bateau. Un programme de voyage sera mis sur ordinateur qui dirigera le bateau à sa destination avec les escales prévues, guidées au laser pour les obstacles. Des caméras dans tous les coins. Pont, lieu, coursive, salle de réunion, du personnel et des passagers. Dans toutes les salles, salle de danse, salle à manger, salle de spectacle, de sport, de jeu, salle pour les enfants, bibliothèque, école, vidéothèque, internet, etc., billard, fumoir, cabine seule, cabine pour plusieurs, appartement privé. Le tout découpé comme un hôtel palace du 19e avec tout le confort. Le personnel aussi aura ses lieux en plus. Il aura sa salle de réunion, syndicale, de détente, bureau, son coin de sport, de spectacle. Le personnel se trouvera au-dessus des chaudières du bateau et où il aura ses appartements privés et toutes les salles que nous vous avons dit. Au premier, ce sera la deuxième classe. Au deuxième, le bureau et salle de commande, ordinateur, etc. Au troisième, les premières classes. Tout est grand, immense. Oui, tout est immense. Les coursives, très larges. Les cours, aussi. Le personnel, pour aller d'un point à l'autre, a de petites voitures électriques ou camionnettes pour amener des choses. Pour les passagers, il y a aussi des navettes et des voitures taxi. Le bateau est fait en acier spécial et doublé. Il y a les chaudières atomiques. Les déchets atomiques sont renouvelables et vont d'une chaudière à l'autre. On commence à mettre l'atome dans la première chaudière pour faire marcher le bateau. Ensuite, on met le déchet dans la deuxième chaudière pour le chauffage et l'éclairage, etc., etc. Ça va le déchet atomique va d'une chaudière à l'autre. Et puis le déchet, ensuite, ce qui reste du déchet, on le met dans un récipient qui sera évacué tous les 15 jours et ce déchet sera retraité à terre. À Lyon, Philippe s'apprête à rentrer chez lui. Il revient d'un concert rock qui se passait dans un sous-sol à Villeurbanne. Plus c'est pourri, mieux c'est. Il est minuit et Philippe est sorti du métro en pleine ville. Il continue son trajet à pied. Les rues sont presque désertes. Tout à coup, une voiture s'est arrêtée devant lui. En sort deux hommes qui vont vers lui. Ils sont habillés de costumes gris, taille moyenne dans les 30 ans, cheveux châtains. Les deux hommes le dépassent et l'arrêtent. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.